aussi nos cœurs afin de recevoir favorablement ta parole. Nous avons soif, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons introduire la quatrième leçon du désert, le désert 4. Amen. On peut bénir le Seigneur pour les chantres. La quatrième leçon du désert. Pour ceux qui nous prennent en marche, j'aime toujours faire ce petit rappel. Tout homme passe par des moments difficiles, par des temps d'épreuve, même lorsqu'on n'est pas chrétien. Et les épreuves, à plus forte raison lorsqu'on connaît le Seigneur, sont importantes dans la vie du croyant. Chaque homme dans sa vie, peut-être que tu le vis maintenant, peut-être que tu l'as connu, peut-être que tu le connaîtras, mais tu passeras par un moment que la Bible nomme désert. C'est un temps où tes projets n'aboutissent pas vraiment. Comme dans un désert, tu sèmes et tu ne moissonnes pas. Le temps d'épreuve est un moment où tu te sens seul, comme la solitude des déserts. Tu as des idées, tu as des projets, tu partages avec autrui, avec des personnes, mais tu ne trouves pas les soutiens escomptés. Les gens ne te comprennent pas, même si physiquement, il y a beaucoup de personnes autour de toi. Lorsque tu passes par cette période que la Bible appelle désert, tu vas sentir en toi une forme de solitude face à tes défis, à tes challenges, aux choses que tu veux voir se réaliser. Pas que les gens t'ont abandonné, peut-être que toi-même tu ne te comprends pas ou tu ne comprends pas les autres, mais n'empêche que dans le résultat, tu te sens quelquefois seul en train de devoir relever des défis. C'est une des caractéristiques de ce temps qu'on appelle des déserts. Tu vas sembler manquer de grâce dans le temps du désert, qui est l'absence de la pluie dans les déserts, la sécheresse dans le désert. Dans ta vie pratique, ça va se manifester par une difficulté dans tout ce que tu fais. Rien de ce que tu entreprends n'est aisé, n'est facile. Pour certains, ils n'ont qu'à toucher un petit bouton et ils voient des résultats. Toi, pour avoir le même résultat, tu dois souffrir 2, 3, 4 fois, 7 fois plus que le commun des mortels. Pourtant, tu appliques quelquefois les mêmes méthodes, tu te déploies de la même façon et quelquefois même beaucoup plus. Pour dire que dans un désert, pour voir pousser une plante, le cultivateur doit fournir beaucoup plus d'efforts que celui qui plante une plante dans une zone forestière où il y a de l'eau. Quand vous êtes dans le désert, vous devez vous-même aller chercher l'eau. Vous devez faire le travail de labourer, vous devez veiller sur la plante, elle est toujours là. Dans une zone forestière où il y a de l'eau en abondance et de la pluie, vous n'avez qu'à semer. Et puis la chose pousse. Dans le désert, tout est créé, tout est fabriqué. On fait l'effort pour chacune des étapes. Et lorsque dans votre vie, vous passez par ce moment qu'on appelle le désert, c'est comme ça les choses fonctionnent. Rien ne doit être laissé au hasard. Vous payez cash toute erreur. Dans le désert, tu payes cash toute erreur. Amen. Alléluia. Et cette période désertique est souvent illustrée dans la parole de Dieu. Et le merveilleux exemple qu'on a, c'est celui d'Israël. Lorsqu'Israël a quitté l'Égypte où il était esclave pour entrer en Canaan. Canaan, dans la vie d'un homme, symbolise l'entrée dans les promesses. Canaan, en point final, va signifier notre vie auprès du Seigneur, le paradis de Dieu. Mais sur terre ici, le Canaan représente une personne qui entre dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour sa vie. Amen. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'effort à fournir lorsqu'on arrive à Canaan, mais quand tu agis, quand tu fais ceci, il y a des résultats. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de difficultés en Canaan, mais elles sont moins manifestes. Celui qui est dans Canaan, il sait où il va. Il sait ce qu'il a à faire. Dans Canaan, on déploie son potentiel. Ce que Dieu a prévu qu'on soit, on le manifeste pleinement lorsqu'on rentre dans son Canaan. Dans Canaan, on voit le fruit de son travail. Dans Canaan, on devient une source de bénédiction pour les autres. Donc, tout le monde tend vers son Canaan. Mais avant d'entrer dans ton Canaan, tu dois traverser le désert. La Bible dit que Dieu a fait faire à Israël volontairement un détour. Dans le livre d'Exode, il est dit que Dieu a fait faire un détour par le chemin du désert. Le désert paraît toujours comme un détour. C'est-à-dire, vous avez l'impression que votre promesse n'est pas loin, mais Dieu ne vous la fait pas atteindre directement. Il va faire un grand tour comme ça pour revenir à ce que vous voyez, vous pensez pouvoir toucher simplement. C'est-à-dire, tu as besoin d'argent pour lancer ton entreprise. Tu dis, Dieu, donne-moi, puis c'est fini. Mais pour te donner 100 000 francs, vous allez faire le tour, ce qu'on appelle un détour, pour arriver à ce point-là. Mais lorsque tu vas arriver, ce n'est pas exactement les 100 000 francs que tu attendais que tu auras. Tu vas entrer dans la gloire. Ça sera énormément au-delà de tes attentes. Amen. Dans le désert, vous êtes confronté à plusieurs catégories ou à plusieurs types d'épreuves. Et c'est celle-là que nous sommes en train d'étudier au travers de cette grande série que nous avons appelée 10 leçons. On peut le dire ensemble, 1, 2, 3. 10 leçons pour transformer nos déserts en oasis. Alléluia. Donc, l'épreuve n'est pas une fatalité. L'épreuve n'est pas une chose qu'on doit subir simplement et subir. L'art du désert, ce que Dieu attend de nous dans le désert, c'est que nous apprenions de lui de sorte à arriver à faire fleurir notre désert. C'est-à-dire, même si ta période est difficile, même si les choses sont compliquées, Dieu veut que dans le désert tu souris. Il veut dans le désert pourvoir à tes besoins. Il veut dans le désert montrer sa puissance et sa gloire. Alléluia. Sauf que pour te les montrer, il va falloir que tu appliques certains principes, certaines clés. Et c'est ça les leçons du désert. Les 10 leçons, ce sont les révélations. C'est l'explication des révélations que Dieu a donné à Moïse quand Israël traversait le désert. Donc quand ils n'avaient pas d'eau, Dieu leur dit faites comme ça, et puis l'eau apparaît. Quand ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas de la viande à manger, ils disent mais Dieu on n'a pas de viande. Et puis Dieu dit à Moïse fais ceci, fais cela, et puis la viande arrive. Donc le désert était toujours changé en une forme d'oasis, amen, à condition que certaines choses soient appliquées. Maintenant tout ce que Moïse a fait, c'est l'ombre des choses à venir, ce n'est pas la réalité concrète aujourd'hui. Et notre but, le but de cet enseignement, c'est de décoder cela et d'appliquer ces règles à notre vie aujourd'hui. Et je vous assure, ça marche. Dis à un voisin, ça marche. Amen. Dans le troisième désert, on a découvert la clé du rocher. Et là, nous arrivons dans le quatrième désert. Dis avec moi le quatrième désert. C'est-à-dire, tu peux vivre la même épreuve, mais dans cette épreuve-là, il va survenir certaines situations, tu vas vivre certains phénomènes. Et c'est ce que j'appelle la caractéristique. Les phénomènes, je les présente comme étant les caractéristiques du désert. Alléluia. Dans le désert 3, on traversait la vallée de l'ombre de la mort. Dans le désert 1, on a interprété les grandes privations. Lorsqu'on est privé d'une chose essentielle à notre vie, comment Dieu veut qu'on transforme cela en situation favorable. Dans le désert 4, nous allons travailler le temps avec Dieu. Le temps. T-E-M-P-S. Le temps. Amen. Le temps. T-E-M-P-S. Amen. Le temps. Dis avec moi le temps. Le quatrième désert, je l'ai appelé, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver le nom, donner un désert. Je l'ai surnommé le désert de l'attente. Attendre. C'est un désert où tu attends. Tu as la promesse. Tu sais ce que Dieu t'a dit, va faire. Et tu entends même la voix qui t'a dit, je vous glorifie, ce que tu as demandé arrive. Et puis ça ne vient pas, ça tarde. Ça tarde à venir. Amen. La chose tarde à se réaliser. Le mariage peut tarder à venir, le travail tarde à venir. La dimension spirituelle dans laquelle tu veux entrer tarde à se manifester. Le Seigneur avait annoncé que tu allais dans tel endroit pour faire ceci ou cela, et ça tarde à voir le jour. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Marc, le désert de l'attente. Le désert de l'attente. Dis avec moi, attente. Dans le livre d'Habakouk, chapitre 2, Dieu dit ceci à Habakouk. Il dit, si la promesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quoi? Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Donc le Seigneur nous dit qu'il arrive que les promesses tardent à s'accomplir. Et puis il dit, malgré que ça va tarder, il dit, parce que le temps est déjà fixé. C'est-à-dire, ce que tu crois être un retard, Dieu même utilise les deux mots. Il dit tarder, mais la date du miracle est déjà calée par Dieu. Alléluia. Donc, le désert de l'attente, c'est le temps où Dieu semble tarder dans l'accomplissement d'une chose. Donc, le fait de tarder, là, c'est une épreuve. Amen. Ça met en épreuve ta patience. Ça met à l'épreuve tes émotions, tes sensations. Et derrière ce fait de tarder avant l'accomplissement de la promesse, se cache un grand et glorieux trésor. Alléluia. Parce que le désert, ce n'est pas l'épreuve pour être l'épreuve. Dieu ne fait pas souffrir dans le but de faire souffrir. Non, Dieu ne prend pas plaisir à tes larmes. Chaque désert ou chaque étape de l'épreuve cache un trésor. Même de manière physique, au lieu de nous sommes rendus compte que la plupart, sinon tous les déserts dans le monde ne sont pas désertiques véritablement. Un pays comme le Mali a connu une guerre acharnée. Ce n'est pas simplement une guerre des religions. C'est parce que dans la partie que les gens voulaient occuper, le désert n'était pas désert. Tout le monde fuyait les déserts. Mais aujourd'hui, beaucoup aimeraient bien changer leur pays forestier avec des zones dont lesquelles on a découvert sous le désert des richesses extraordinaires. Parce que quand tu vois comment leur pays est bâti, ces nations qui ont bâti dans des zones arides sont devenues aujourd'hui les nations les plus puissantes, les plus belles. Elles ont transformé leur désert en presque un paradis. Tout simplement avec ce qui était caché sous le désert, sous le sable. Derrière ce qui semble rugueux, difficile et compliqué, se cache un trésor. Derrière ce qui te fait pleurer, il y a une richesse. Derrière la solitude que tu ressens, il y a quelque chose de glorieux. Derrière la difficulté avec laquelle tu travailles pour avoir un fruit, cette période qui te semble compliquée, recèle de trésors inestimables. La chose du désert, c'est que les trésors ne sont pas apparents. Dans le désert, la gloire, le trésor n'est pas apparent. Dans les déserts spirituels de la vie d'une personne, les choses que Dieu veut révéler sont cachées. La Bible dit ceci, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder, de chercher les choses que Dieu a cachées. Parlant de cette période du désert, le Seigneur dit en Matthieu 7:7, cherchez, vous trouverez. La première partie, demandez, l'homme vous donnera, nous parle de la première partie où on rencontre Dieu, où Dieu est bon avec nous, on voit sa grâce, on est très content. Tu demandes, tu reçois, tu demandes, tu reçois. Après, virgule, il dit cherche, tu vas trouver. Mais quand on dit chercher, comme je vous ai dit, chercher là, trouver là, c'est au futur. Tu ne sais pas quand tu vas trouver. Cherchez-vous quand on ne sait pas. Amen. Et qu'il faut chercher. Le désert, c'est l'étape du chercher dans votre vie. Où vous cherchez tout. Et il faut que votre esprit soit disposé à trouver ce qu'il y a d'extraordinaire dans le désert. Et dans le quatrième désert, qui est le désert de l'attente. Le temps où Dieu tarde à manifester ce que nous savons être de lui. Ou l'accomplissement de sa promesse. Amen. Dans le livre d'Exode, chapitre 32, nous sommes pratiquement en Exode 32, on est à la fin de cette épreuve. L'épreuve 4, le désert 4, va commencer en Exode 17. Jusqu'en Exode 32, dans les premiers versets du verset 32. Il est dit au chapitre 32, verset 1 de Exode, que le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » La Bible dit, « D'où est venu le veau d'or ?» Vous connaissez l'histoire du veau d'or. Et à partir du veau d'or, Dieu va frapper Israël. Quand Israël murmure, il y a mort. Le veau d'or, c'est l'erreur qui va commencer à sceller la séparation entre Dieu et son peuple. Le veau d'or apparaît à la cinquième épreuve. Mais ce qui a fait que le peuple a construit le veau d'or, c'est le fait que Moïse tardait. Amen. Comme Moïse tardait et que eux, pendant longtemps, ils étaient dans l'attente pour arrêter d'attendre, ils ont créé un veau d'or. Et le veau d'or, pour eux, c'était Dieu. C'est-à-dire, ils se sont donné un autre Dieu. Quand vous lisez l'histoire du veau d'or, on va l'étudier plus tard. Ils ont appelé le veau d'or l'Éternel. Pour eux, ils n'ont pas rétrogradé. Ils ne sont pas devenus fétichistes. Non. Ils ont juste dessiné Dieu à la façon dont ils voulaient. Ils ont créé leur propre Dieu. Ils ont vu en Dieu un bœuf en or. C'est-à-dire, ils ont transformé Dieu en un serviteur. C'est-à-dire, Dieu répond à tes besoins. C'est-à-dire, quand on dit Dieu était un petit bœuf là, mais dans la bouche, tu ne vas pas aller représenter Dieu. C'est dans ton cœur. Et le bœuf, c'est l'animal de service par excellence. Il aboie les champs, il donne du lait, il donne de la viande, il donne de la peau. En fait, tout dans son corps est utilisable. C'est-à-dire vraiment, il est là pour l'épanouissement, pour le bien-être de l'homme. Mais le bœuf nous sert. Donc, le péché du veau d'or, c'est changer la position de Dieu, amener Dieu à devenir une forme de serviteur. J'ai faim dans moi. Dieu, allons ici. Maintenant, j'ai un mari. Non, je prends lui là. Dieu dit, c'est pas bon. J'ai dit, Dieu, c'est lui. Fais qu'il devienne mon bon mari. Transforme-le. Dieu dit, va pas faire ce travail. Tu dis, je veux faire. Dieu dit, ne fais pas. Tu dis, je veux faire. Allez, fais que ça devienne ta volonté. C'est ta volonté maintenant. Moi, je veux ce travail aussi. C'est ta volonté. Dieu dit, arrête de marcher avec telle compagnie. Non, Dieu, j'aime cette compagnie. Est-ce que tu comprends? N'es-tu pas le Dieu qui change les cœurs? Change, change. Voilà. Il est changé maintenant. Il est changé. Donc, qui sert qui? Qui sert qui? C'est Dieu qui te sert ou c'est toi qui l'adore ou c'est toi qui le sert? Ça, c'est le veau d'or. Amen. Mais ce qui amène les gens à fabriquer le veau d'or, c'est le temps que Dieu prend pour répondre. Donc, on commence à chercher des pasteurs, des bishops, des prophètes qui nous donnent Dieu, qui donnent un accès à Dieu du claquement des doigts. On dit, non, je connais un gars. Ah, lui, dès qu'il prie, le lendemain, tu es marié en même temps. Ton mari t'a abandonné. Lui, va le voir. Quand il prie, ton mari va courir, rentrer dans la maison. Tout ce que Dieu veut t'apprendre, tu n'apprends pas. C'est-à-dire, tu as eu un Dieu comme un féticheur. Et tu cherches un pasteur ou un prophète, un soi-disant homme de Dieu pour faciliter. Donc, ils sont partis voir Aaron. Pour dire, Aaron, tu étais un bishop toi aussi. Fais-nous un veau d'or. Mais ce qui amène le peuple à arriver là, c'est l'épreuve qui précède. Le temps que Dieu prend avant de répondre. Amen. Amen. Touche un voisin, dit, sers Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va te servir. Amen. Amen. Et ce qui amène là, donc je dis, c'est le temps que le Seigneur prend. Et Israël va attendre. Ils vont arriver dans le désert de Refidim, ils vont aller dans un désert qu'on appelle Sinaï, et puis ils attendent. Ils ne avancent plus, on ne recule plus. Et dans cette période-là, alors là maintenant on revient au début de l'épreuve, en Exode 17, quelque chose va se passer. En Exode 17, à partir du verset 8, et c'est ce dont je vais parler, on va s'arrêter pour aujourd'hui. C'est juste un texte introductif au désert 4, le désert de l'attente. Il est dit, Amalek vient combattre Israël à Refidim. Donc vous comprenez avec moi, pendant qu'Israël était en train d'attendre l'intervention de Dieu, un peuple du nom de Amalek, tiens avec moi Amalek, est venu combattre Israël. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Vous noterez, chers amis, qu'à partir, vous allez vous rendre compte que à partir d'Exode 17, Moïse va souvent se retrouver sur la montagne. Dis avec moi la montagne. Et à partir de la montagne, beaucoup de choses vont être réglées. La montagne, la Bible dit Moïse est monté sur la colline ou sur la montagne. La montagne est la position spirituelle dans laquelle le Seigneur vous veut pour transformer cette période d'attente en oasis. Pour que cette période qui semble interminable se transforme en gloire et que vous puissiez bénéficier de toutes les faveurs. Et on comprendra quelle est la gloire qui vient après. Pourquoi Dieu nous fait attendre? pourquoi l'attente est précieuse et pourquoi elle n'est pas inutile. Qu'est-ce que Dieu veut te montrer pendant que tu attends? Quand tu n'as pas encore eu le travail, quel est le trésor qu'il y a dans le fait de ne pas aller au travail et d'attendre qu'on trouve une porte? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne? Et qu'est-ce que tu peux gagner quand tu attends? C'est ça l'oasis. Tu pries, je vais me marier. Il tarde. Qu'est-ce que Dieu dit? Mais Dieu, tu gagnes quoi? Comment tu dis Dieu? Si je me marie là, ça te fait quoi? Ça fait quoi? Mais pourquoi? La question est de me pourquoi Dieu permet-il cela? Je n'ai pas envie d'arrêter ton projet. La Bible dit, si la promesse tarde, attends-la, continue de l'attendre. Mais fais ce que tu dois faire pendant la période pour que ta gloire vienne de manière glorieuse. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Mais pendant que tu seras dans cette période d'attente, quelqu'un va t'attaquer, une chose va t'attaquer. Ça s'appelle Amalek. Amalek est venu attaquer. Et face à l'attaque d'Amalek, Moïse va adopter une stratégie bizarre. Il dit à son jeune serviteur Josué, va te battre avec Amalek, pendant que moi, Moïse, je vais sur la montagne avec la verge. Vous vous souvenez de la verge? Amen. La verge de Dieu. Alléluia. Il dit, donc verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et Moïse s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et les mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Verset 14 de Exode 17. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donc pendant que Dieu tarde, le désert de l'attente, quand tu as cette épreuve où tu attends les promesses de Dieu, mais elles tardent à s'accomplir, tu attends ce qu'il t'a dit, les choses tardent à s'accomplir, tu seras visité par une forme d'esprit, par une forme de pensée. Amalek, ce n'est pas des personnes qui vont venir te faire la guerre physiquement. Alors le Saint-Esprit, pendant que j'étudiais ce texte, m'a amené à voir ce que signifiait Amalek. Le nom Amalek signifie quoi? L'Ancien Testament ayant été écrit à l'origine en hébreu, j'ai vu que le nom Amalek signifiait « qui demeure dans la vallée ». Amalek, c'est « qui demeure dans la vallée ». C'est-à-dire Amalek, son objectif en t'attaquant, c'est de te faire demeurer dans la vallée. Tandis que la position idéale, c'est celle que Moïse avait spirituellement sur la montagne. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous passez le désert 3, une des caractéristiques du désert 4, c'est la présence et l'attaque chronique et l'attaque d'Amalek. Amalek signifie donc, je dis tantôt, demeurer dans la vallée. Qu'est-ce que ça signifie de manière pratique? Donc la vallée, vous savez, c'est l'opposé de la montagne. La montagne, on va en hauteur, la vallée, on descend, c'est la cuvette. Amen. Et c'est ça, en fait, Amalek. Amalek veut faire demeurer dans la vallée. Moïse veut monter sur la montagne. Monter sur la montagne, sur le plan spirituel, parle d'être quelqu'un, d'être en hauteur. La hauteur donne certains privilèges. La visibilité, quand vous êtes en hauteur, vous voyez très loin. Celui qui est sur les montagnes a une vision exercée. Il sent les choses venir, il a une vision de ses perspectives futures, il sait ce que Dieu va faire avec lui, il sait ce qu'il va voir demain. En fait, il a plus de visibilité. Quand vous êtes dans la vallée, votre visibilité est réduite. Elle est réduite aux montagnes qui se dressent devant vous parce que vous êtes dans une cuvette. Celui qui est dans la vallée ne sait plus où il va, n'a pas une visibilité claire, il a une mauvaise vue des choses devant lui. La vallée ou la montagne fait aussi référence à un état de communion avec Dieu. La Bible, en parlant de la montagne, parle de la communion avec Dieu. Celui qui va sur les hauteurs dans la montagne parle de sa communion, d'une vie d'adoration, de quelqu'un qui se tourne devant le trône du Seigneur, de quelqu'un qui est devant Dieu. Celui qui est dans la vallée, par contre, montre qu'il s'est comme éloigné de Dieu dans la vie de prière. Mais la vallée, et particulièrement Amalek, signifie encore autre chose. Parce que la montagne aussi signifie avoir l'esprit haut, l'esprit fort. La vallée, ça signifie avoir le moral bas. Tu es en dessous, tu es bas. Tu n'as plus tes forces. Amalek a pour mission, quand quelqu'un attarde, quand la bénédiction tarde, Amalek vient te donner la déprime. Morale, psychologique. Amalek te maintient. Le nom signifie demeure dans la vallée. Ça veut dire demeure avec un moral bas. On a le moral bas quand on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas c'est quoi le lendemain. Ton esprit est abattu. Parce que les choses ne sont pas passées comme tu attendais. C'est-à-dire Amalek survient et ta situation, comme on dit souvent, quand Amalek te visite, tu craques quoi. Tu fais une déprime, tu peux commencer à pleurer. Tu dis, mais jusqu'à quand? Parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu es dans la vallée, tu n'as pas de visibilité de la montagne. Amalek te fait garer, te fait rester dans la vallée. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où est la gauche. Tu ne sais pas où est la droite. Tu ne sais pas quelle est la direction que tu dois prendre. Parce que pour voir la direction, il faut monter sur la montagne. Mais Amalek vient t'attaquer pour que tu restes. Son nom signifie. Donc, qu'est-ce qui est attaqué en fait? Quand on dit Amalek t'a attaqué, c'est l'esprit qui veut te faire demeurer dans la vallée. Qui veut te garder dans un moral, avec un moral bas. La Bible dit dans le livre des Proverbes, l'esprit d'un homme le soutient dans la maladie. Mais tu avais dit dans la difficulté, ton esprit est fort. Mais quand un esprit est abattu, c'est quand tu es abattu, tu n'as même pas la force de t'élever de ton lit. Tu ne sais même pas ce que tu vas faire dehors. C'est-à-dire que tu es découragé. Tu as écouté les messages, on t'a encouragé. Mais quand Amalek te visite, peut-être la veille même, tu étais de bonne humeur. Et au réveil, un blues. En tout cas, c'est comme tu te réveilles. Hier, tu as souri avant de dormir. Parce que tu te rappelais. Tu dis, c'est dur, mais ça va aller. Et ce n'est pas comme ça. Il y a une tristesse dans ton âme. Vers 3 heures du matin, ça te réveille, petit. Ah, c'est Amalek. Tu dis quoi? Est-ce que tu vas sortir de ça? Et tu te réveilles. Tu dis, mais la vie même, ça ne vaut pas la peine d'être vécue. Et ce n'est pas mieux même de mourir. Bon, si tu as des enfants, tu dis non. Si je n'ai pas ma femme, les enfants, franchement. Il y en a qui vont aller voir les versets dans la Bible pour voir s'il n'y a pas une autorisation au suicide. Qui ont dit, tu sais, quand Amalek arrive, j'ai envie de tout laisser, tu sais, je vais tout laisser, je prends un billet, je m'en vais à l'aventure, je quitte ce pays-là. Si tu parles comme ça, Amalek est venu te saluer. Quand Amalek arrive, Amalek tire tes pieds dans la vallée, la vallée morale. Tu n'as plus l'esprit haut, tu n'as plus l'esprit fort. Amalek te maintient, Amalek dit, tout est fini, reste ici. Tu ne connaîtras pas l'élévation. Tu n'iras nulle part. Qui a déjà rencontré Amalek une fois? Levez la main, les victimes d'Amalek. Ah! Amalek est une caractéristique du désert 4. On a bu. Le message, c'est bien. Quand tu arrives dimanche, tu es galvanisé. Prends courage. Jésus est vivant. Ça vient. Amen. Tu pars. Ça t'encourage 2 dimanches. Mais malgré l'encouragement, la nuit du lundi à mardi, ou bien la nuit du dimanche à lundi. Non, parce que dimanche, lundi, tu es encore fort. La prédication t'a béni. Mais la journée du lundi te frappe. Mardi, ça te frappe. La nuit du mardi à mercredi. Ah non? Tout le message du dimanche, là, c'est parti. Et tu es à plat. Tu es dans la vallée maintenant. Là, Amalek est venu t'attaquer. Il dit, petit, on reste ici. Tu vas aller où? Et tu as parlé à l'église. Je vois la gloire. Je vis la gloire. Je marche dans la gloire. Amalek dit, ça c'est dimanche. Frère, parle. Dimanche, on dit la gloire. Crie seulement. Moi, je t'attends. Lundi, je vais te montrer quelque chose. Mardi, mercredi, tu vas voir si tu peux crier encore. Et le mercredi matin, tu ne peux plus prier. Tu te lèves même. Tes prières sont des larmes seulement. Et même tu ne peux même pas prier. Tu as prié jusqu'à tu es fatigué. Donc tu n'es plus des prières, ce sont des pensées. Tu penses. Tu penses. Tu te réveilles. Tu dis, bon, ok, allons-y quand même, on ne sait jamais. Là, Amalek est en train de te frapper. Amalek est en train de te vaincre. Mais il faut que tu triomphes d'Amalek. Moïse dit à la fin, Dieu dit ceci à Moïse, il dit, Amalek doit être exterminé. C'est-à-dire, les choses qui abattent ton moral, ton esprit. Parce que quand Dieu va te visiter, quand Dieu te parle, il parle par ton esprit. Si ton esprit est affecté et affaibli, tu n'as plus de perception de ce qu'il va faire. Alléluia. C'est pourquoi Amalek ne peut pas vivre. Il n'y a pas de compromis avec l'ennemi du découragement. La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Et quand Moïse a vu que c'était Amalek, il a fait une stratégie de guerre différente. Et c'est là les clés, une des clés de ce désert 4. Moïse est allé sur la montagne. Il dit, Josué, bats-toi. C'est-à-dire, physiquement, je vais résister. Mais il y a une autre bataille qui se passe au niveau spirituel. Et tu vois, souvent physiquement, tu vas affronter tes Amalek. Mais ce n'est pas parce que Josué est parti se battre avec Amalek physiquement. C'est-à-dire, tu te motives, tu t'encourages, mais tu ne vas pas tenir. Je lirai peut-être dimanche prochain, il y a un passage où il est dit qu'Amalek, à cette époque, était la plus puissante nation. C'était un puissant peuple. Donc Amalek, ce n'est pas un petit ennemi. Ce n'est pas un petit adversaire. Ce n'est pas un petit esprit. Moïse est monté sur la montagne. Mais vous vous dites que si Dieu veut triompher d'Amalek, il n'a qu'à claquer les doigts, Amalek meurt. Mais la victoire sur Amalek a été une victoire très particulière. Et c'est pourquoi je vous dis, chaque épreuve dans son désert a sa clé. Si vous faites autre chose, ça n'a pas fonctionné. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Et ce désert-là va devenir une oasis. Dieu t'apprend des choses à chacune des étapes. Quand tu rencontres Amalek, c'est que certainement tu es dans ta phase où tu attends et les choses tardent à s'accomplir. C'est pour ça que tu te relâches. C'est pourquoi tu déprimes. C'est parce que ça tarde. Alors quand c'est comme ça, tu continues le combat, mais tu montes sur la montagne. J'expliquerai ce que c'est exactement. Qu'est-ce que Dieu attend de nous sur la montagne? Et tu prends cette position, mais tout ça sont des positions spirituelles. Ce sont des attitudes intérieures. Ce n'est pas des choses que tu vas faire physiquement, aller voir quelqu'un. Non, c'est la montagne, c'est dans ton intérieur. La vallée, c'est dans ton être intérieur. Amen. Il faut monter dans ton âme, il faut monter dans ton esprit quelque part. Il faut être dans une autre dimension, dans ton être intérieur, pour pouvoir triompher d'Amalek et attendre la manifestation de ta promesse. Alléluia. Et Moïse monte. Et là, Moïse prie. Il lève les mains. Levez les mains pour combattre. Donc, il a la verge de Dieu. Toujours la verge de Dieu. On va dire ce qu'il faut faire avec la verge. Qu'est-ce que ça signifie? Et il lève les deux mains. Il lève les deux mains. La Bible dit ceci. Tant que les mains étaient maintenues hautes, Israël avait la victoire. Mais quand Moïse, par fatigue, baissait les mains, Amalek prenait le dessus. Normalement, il dit, mais Dieu, change de position. Il faut dire, comme c'est nous les vainqueurs, toi, Dieu t'avait. Il faut dire, tant qu'on a les mains en bas, là, c'est plus facile. Mais la position qui donnait la victoire à Moïse était la position la plus inconfortable. Garder les mains hautement levées. Ça fatigue les muscles, fatigue le corps. Lever les mains pour quelques minutes, ça va. Mais toute une journée, quand il commence à fatiguer, il laisse. C'est une attitude spirituelle, de prière. Ça veut dire, pendant que vous êtes dans la guerre d'Amalek, mes amis, c'est une bataille, je vous assure, au jour, à l'heure. Ça veut dire, on ne laisse rien tomber. C'est une posture de vigilance et de combat de chaque seconde. C'est-à-dire, il y a un relâchement, le diable te frappe. Tu baisses les bras, mais tu dis, tu te prends une claque spirituelle. Amen. Et Moïse a donc dû garder les mains levées. Mais les mains levées, vous ne savez pas de la, toute la prière. C'est pourquoi j'aime le temps de jeûne. Quand vous êtes dans Malek, il y a des manières de prier. Il y a plusieurs façons de prier. Il y a le cri qu'on a vu au désert 1. Il y a les actions de grâce qu'on voit au désert 2. Il y a les proclamations vis-à-vis du rocher qu'on voit au désert 3. Dans le désert 4, quand tu reconnais le désert 4 dans ta vie, la sagesse, c'est la main levée. Constamment levée. La main levée, il y a deux sens dans le sens de la main levée. La main levée, physiquement, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Au plus que je dis que c'est la deuxième façon. Mais les deux sont vrais. Il y a levé, quand on, souvent on adore, il faut comprendre pourquoi on lève les mains. Lever les mains, on fait comme ça. Ok? Quand tu lèves les paumes retournées, c'est que tu t'attends à Dieu. En fait, Seigneur, j'attends que tu mettes quelque chose dans ma main. Donc je lève les mains comme ça. Ça, c'est une manière de lever les mains. Il y a une manière de lever les mains qu'on voit chez les enfants. Quand ils disent, prends-moi. C'est comme ça. Elle dit, prends-moi, papa, maman, prends-moi. Là, tout est levé. C'est pas qu'il attend de recevoir. Il a juste envie que tu le prennes. C'est pas qu'il veut quelque chose. Il veut juste être dans tes bras. Amen. Donc la petite vient, prends-moi. C'est pas donne-moi, c'est prends-moi. Je crois que c'est la posture que Moïse avait. Amen. C'est un peu la posture de haut les mains. Quand tu fais haut les mains, ça dit mon gars, tu n'as rien, tu peux rien. On dit haut les mains. Si tu abaisses la main, tu es. Donc tu crois. C'est ça, haut les mains. Elle dit tes mains, tu es. C'est pour dire, regarde ma main là, il n'y a rien dedans, je suis rien. Donc, celui quand lui qui te dit haut les mains, il voit que tu es vide. C'est cette posture. Cette posture d'abandon. Et c'est une posture qui doit être chronique pendant le temps. Parce que dès l'instant où tu abaisses, et j'expliquerai cela, alléluia, alléluia, Amalek prend le devant. Amen. Amen. Dieu te donne la victoire sur Amalek. Lorsque Moïse a gardé les mains levées, qu'il était fatigué, une chose a été faite. Ces deux acolytes qui étaient à côté ont compris. Ils ont fait une chose. Parce que Moïse ne peut pas continuer comme ça. La Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moïse a fait quoi? Ils l'ont fait asseoir. Vous n'avez pas remarqué, ils l'ont fait asseoir sur quoi? Sur une pierre. Sur le rocher. Le même rocher de désert 3. Moïse est assis sur le rocher. On lui a gardé les mains tendues jusqu'au coucher. Il est la victoire sur Amalek. Ce que le Saint-Esprit te demande, laisse-toi entre ses mains. Abandonne-toi. Quand ton moral est bas, quand rien ne va, dis encore, c'est là même tu lèves les mains. Pour dire, je n'ai rien, je ne suis rien, je ne peux rien. Tiens-moi, prends-moi, haut les mains, je suis haut les mains. Alléluia. Il y a encore d'autres éléments. Et là, Dieu écrase Amalek. Dieu combat Amalek. Dieu détruit Amalek pour relever ton esprit afin de te donner ta victoire. Sur ce point, nous allons nous tenir debout, chers amis. Aujourd'hui, tu as la victoire sur Amalek dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux écraser un peu Amalek? Alléluia. Et pendant ce temps de jeûne, c'est cette posture-là que nous allons avoir sur le plan spirituel. Amen. Je n'ai pas dit de lever la main pour te promener dans la vie d'Abidjan. On sort devant Zone, on voit les gars, ils sont quoi? On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, le pasteur a dit, on ne baisse pas les mains au Dieu, c'est Amalek. Non, les mains doivent être levées dans le cœur. Ce sont les mains d'abandon dans le cœur. C'est un état moral, c'est une manière de penser, c'est une mentalité. Et ça fait la différence, chers amis. Amen. Ce n'est qu'un point, on donnera encore les autres pour transformer ce désert-là en oasis. Mais nous déjà, de manière même physique ici, pour traduire l'état de notre cœur, nous voulons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Gardons les mains levées.